Le 18-20 commence avec ce que vous devez retenir de cette journée du mardi 12 janvier, avec le premier journal de la soirée, signé Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence avec une ruée sur les vaccins.
Des centres d'appel débordés pour prendre les rendez-vous. C'est à Nancy où l'on commence dès demain à vacciner les personnes âgées hors EHPAD. En France, ce sera ouvert à partir de la semaine prochaine. De son côté, l'Europe étudie le dossier d'un troisième vaccin, AstraZeneca. La gamme s'élargit et pourrait permettre d'accélérer le rythme. L'accusation inédite de cette ONG israélienne reconnue est sans précédent. B'Tselem dénonce un régime d'apartheid imposé par l'État hébreu aux Palestiniens. Et puis la Covid contamine tous les terrains de sport, de la NBA aux États-Unis, au rugby et au foot français. Les cas se multiplient.
À 18h15, un jour dans le monde, nous sommes sur France Inter, l'émission qui parle de ces endroits du monde sur lesquels on passe sans s'arrêter. Et pourtant, nous aussi, nous passons à côté de crises humanitaires et donc à côté d'êtres humains tous les ans. L'ONG CARE pointe du doigt 10 crises humanitaires oubliées. Nous les suivons ce soir du Burundi au Malawi, de l'Ukraine au Guatemala. À 19h20, le téléphone sonne avec une jeune femme ce soir, lauréate à la fin de l'année dernière du prix Goldman, que l'on aime bien qualifier du prix Nobel dans le monde de l'environnement. Lucie Pinson est fondatrice de l'ONG Reclaim Finance. Elle pousse les grandes banques à ne plus financer notamment le charbon. On est ravis de la voir ce soir avec nous entre deux moments en France, le One Planet Summit qui s'est terminé hier et puis l'audience de l'affaire du siècle jeudi. Vos questions pour Lucie Pinceau, c'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
Pas si sceptiques, donc les Français, ils se précipitent vers les vaccins.
Ça se passe à Nancy. À partir de demain, les plus de 75 ans vont pouvoir recevoir une injection contre la Covid sur rendez-vous. La ville ouvre une semaine en avance et 9 centres de vaccination pour les personnes âgées hors EHPAD. Et à la faveur d'un bug informatique, quelques seniors, dès aujourd'hui, ont pu se faire vacciner en obtenant un créneau sur Doctolib, l'une des plateformes internet où l'on pourra s'inscrire. À Nancy, la cellule téléphonique pour prendre rendez-vous est gérée aussi par le CHRU. Elle est prise d'assaut, Romain Bercher.
Le bruit incessant des sonneries de téléphone rythme cette salle du CHRU de Nancy.
Centre d'appel vaccination Covid-19, bonjour.
L'appel est en général rapide, moins de 2 minutes. Parmi les premières vérifications, il y a l'âge, bien sûr, de là ou du volontaire, mais surtout l'adresse.
Oui, vous habitez où, madame ? Alors, je suis désolée, mais Pont-à-Mousson ne fait pas partie des communes de la métropole du Grand Nancy. Donc, pour l'instant, je ne peux pas.
Si le lieu de résidence est validé, seconde étape, le site de vaccination.
Alors, pour vous, le plus proche, c'est où ? Le centre prouvé, l'hôpital central ou le Marcel Brault ?
La demande est forte. Parfois, le rendez-vous pour la première injection est prévu dans plusieurs semaines.
Alors, j'ai de la place, on va dire, le mercredi 27 à 15h45.
Une deuxième date est aussi réservée pour la seconde injection du vaccin. Plus les heures passent, moins il y a de carrés verts sur l'écran de Mathieu, donc de places disponibles.
On fait que ça, on prend des appels toutes les 30 secondes.
Micro casque sur les oreilles, il enchaîne.
Souvent ils n'ont pas réussi aussi à le faire sur internet, du coup ils veulent plus de renseignements et qu'on puisse le faire avec eux, qu'on les accompagne, ça les soulage.
Le CHRU de Nancy réfléchit déjà à renforcer sa plateforme, les 16 postes existants devraient rapidement doubler.
Voilà pour Nancy. Sur le reste du territoire, la vaccination sera ouverte à tous les plus de 75 ans à partir de lundi prochain. Des vaccins bien supportés par les premiers Français qui en ont bénéficié sur les 138 000 qui ont reçu la première dose. Le ministre de la Santé affirme qu'il n'y a qu'une seule personne qui a déclaré des effets indésirables, une réaction allergique. Cela correspond à ce qui a été constaté à l'étranger, un cas pour 100 000 vaccinés. Et le gouvernement veut monter en puissance, objectif 400 000 vaccinés d'ici là. Fin de la semaine, il faut surtout accélérer dans les maisons de retraite où seulement 30 000 résidents ont pu recevoir l'injection. 30 000 sur 1 million de résidents en EHPAD. Sur le plan européen, car c'est à Bruxelles que se concluent les achats et les autorisations pour les vaccins. L'Agence européenne des médicaments étudie le cas d'un troisième candidat vaccin, le britannique AstraZeneca, conçu avec l'université d'Oxford. L'agence a reçu une demande d'autorisation et pourrait se prononcer avant la fin du mois. Angélique Boin, vous suivez tout cela à Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est donc bien parti pour AstraZeneca.
Oui, c'est un vaccin très attendu dans beaucoup de pays de l'Union européenne. D'abord parce qu'il est 6 fois moins cher que celui de Pfizer, selon une indiscrétion des autorités belges. Ensuite, parce qu'il se conserve beaucoup plus facilement, c'est moins de logistique. Enfin, parce que la Commission en a pré-réservé beaucoup, 300 millions de doses avec une option sur 100 millions supplémentaires, ce qui diminue le risque de pénurie. Ce vaccin est déjà fabriqué et déjà utilisé d'ailleurs notamment par les Britanniques. Alors si l'Agence européenne des médicaments donne son feu vert à sa commercialisation comme espéré d'ici là, la fin du mois. Il pourrait être distribué en Europe une quinzaine de jours plus tard, mi-février donc. C'est ce qu'a indiqué ce matin Sandra Gallina, la négociatrice en chef de la Commission.
Et ce n'est pas fini, Angélique, d'autres vaccins pourraient compléter la gamme européenne.
Oui, selon la négociatrice, la Commission entend bien boucler cette semaine les discussions entamées avec le laboratoire franco-autrichien Valvena. C'est encore 60 millions de doses en comptant les options d'achat. Et elle discute avec l'américain Novavax pour 200 autres millions. Mais il faudra là aussi une autorisation de mise sur le marché. En tout, la Commission a signé des pré-contrats avec 6 labos dans le monde pour un peu plus de 2 millions de doses de vaccins. À ce stade, rappelons que seuls deux sont commercialisés, celui de Pfizer et le Moderna.
Angélique Bois, directeur de Bruxelles. Merci à vous. Et désormais en France, le calendrier politique est bien rodé. Demain, Conseil des ministres et Conseil de défense sanitaire autour du chef de l'État à l'Élysée avant une nouvelle conférence de presse jeudi après-demain. D'après ce que Jean Castex aurait dit aux parlementaires hier, le couvre-feu suffirait. Un troisième confinement ne serait pas à l'ordre du jour. Quant à Emmanuel Macron, hier, il présidait le One Planet Summit pour sauvegarder la biodiversité. Aujourd'hui, il a visité un site d'Ariane Group à Vernon, dans l'heure où des moteurs de fusée sont fabriqués. Au menu, l'avenir des filières de l'espace et l'hydrogène. Mais le chef de l'État l'assure, il ne perd jamais de vue la pandémie. Son credo, c'est de voir au-delà.
Nous avons à vivre cette crise. Nous savions qu'elle allait être longue. Et elle est sans doute le prélude à beaucoup d'autres crises que nous aurons à vivre. Et donc nous devons bâtir un modèle beaucoup plus résilient aux crises, et donc beaucoup plus souverain, où on décide d'être moins dépendant dans nos productions stratégiques. Et ça, nous ne pouvons pas l'arrêter ou le rendre contingent à la gestion de la crise. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je gère la crise chaque jour. Le matin, le midi, le soir. C'est mon obsession. Mais mon obsession, c'est que notre pays sorte de la crise. Et que le jour où nous aurons réussi à endiguer ce virus, nous soyons plus forts pour pouvoir relancer encore plus vigoureusement tous les moteurs de l'économie. Et ça n'attend pas. Et les choix que nous prenons aujourd'hui ont des impacts aujourd'hui, demain, après-demain.
Emmanuel Macron aujourd'hui à Vernon dans l'heure. La Chine, elle, reconfine 5 millions d'habitants dans une ville collée à Pékin. Réaction massive à l'apparition d'un cas de coronavirus. Le but est d'endiguer rapidement les petits foyers. La province de Hebei, qui entoure la capitale chinoise, a recensé 560 personnes positives ces dernières semaines. La Covid perturbe aussi la vie politique au Portugal en pleine campagne présidentielle. Le chef de l'État sortant, Marcelo Rebelo de Sousa, grand favori de l'élection du 24 janvier prochain, a été testé positif lundi et quelques heures plus tard, négatif. Il est à l'isolement au palais présidentiel, asymptomatique et dans l'attente d'un troisième test de confirmation. Les principaux candidats ont annulé leur agenda public dans l'attente de nouvelles de la santé du président.
À l'étranger encore, Israël accusé d'imposer un régime d'apartheid.
C'est la conclusion du dernier rapport d'une organisation israélienne, B'Tselem, l'ONG de défense des droits de l'homme installée dont le travail est reconnu en Israël, observe depuis des années les rapports entre l'État hébreu et les Palestiniens. Et bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous.
Le correspondant permanent de France Inter à Jérusalem. Cette fois-ci, ces mots frappent fort. B'Tselem considère qu'Israël soumet les Palestiniens à un régime d'apartheid. C'est la première fois qu'elle emploie ce terme, Frédéric.
Oui, apartheid, un mot que les Palestiniens ou bien encore l'ancien premier ministre israélien de gauche Ehud Barak utilisaient depuis des années. Mais forcément, apartheid, le mot claque chez l'une des ONG israéliennes les plus connues, Amit Gilutz et son porte-parole.
Reconnaître la vérité, c'est la première étape pour la changer. Il faut donc appeler le régime israélien ce qu'il est, un régime d'apartheid, qui crée et entretient une suprématie juive sur les Palestiniens qui vivent sur tout le territoire que les Israéliens contrôlent. Quand un groupe contrôle un autre groupe et fait en sorte que ce contrôle se perpétue, c'est exactement la définition de l'apartheid.
La vraie nouveauté aujourd'hui, c'est que B'Tselem ne s'intéresse plus seulement à Gaza sous blocus et à la Cisjordanie et Jérusalem-Est occupée. Non, elle parle aussi de la situation des Arabes israéliens. Elle affirme qu'en Israël, la loi fondamentale de l'État-nation du peuple juif, adoptée en 2018, discrimine les Israéliens, musulmans et chrétiens, et participe à cet apartheid partout entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée. Autre organisation israélienne, très connue, NGO Monitor, qui elle penche à droite, elle juge B'Tselem extrémiste, elle lui reproche de recevoir des financements de l'étranger, Union européenne, UNICEF, Fondation catholique, en espérant ainsi la discréditer.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Et c'est en Israël que sera inhumé Sheldon Adelson, mania des casinos dont on vient d'apprendre la mort. Son empire est estimé à près de 30 milliards d'euros selon Forbes. Adelson, soutien financier du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais aussi de Donald Trump aux États-Unis. Adelson a largement contribué aux campagnes du parti républicain. Donald Trump menacé par une nouvelle procédure d'impeachment. Le président sortant la juge cette procédure. C'est dur, totalement ridicule et selon lui, elle provoque une immense colère à travers le pays. Trump est accusé par les démocrates d'avoir incité ses partisans à envahir violemment le Capitole la semaine dernière.
Retour en France pour un coup de filet des forces de l'ordre parmi les défenseurs de l'euthanasie.
Une affaire peu commune de trafic de barbiturique, de pentobarbital pour être précise, un anesthésiant puissant utilisé pour l'aide au suicide. Les autorités ont ciblé une association militant pour le suicide assisté et Corinne Audouin, 10 personnes sont en garde à vue ce soir.
L'affaire avait commencé en juillet 2019 après un signalement des autorités américaines. Des Français se faisaient livrer des colis avec un produit interdit. 130 flacons avaient été saisis dans toute la France contenant du pentobarbital. C'est un puissant anesthésiant commercialisé sous le nom de Nimbutal. Il est interdit en France depuis 1996 pour la médecine humaine, mais utilisé par les vétérinaires pour euthanasier des animaux. L'instruction menée par le pôle santé publique du tribunal de Paris a donc permis de remonter jusqu'à cette association Ultime Liberté. Alors il est trop tôt pour savoir ce qui est reproché aux 10 personnes actuellement en garde à vue, mais l'information judiciaire porte sur des faits d'importation et détention de substances illicites, exercice illégal de la profession de pharmacien et propagande en faveur de produits permettant de se donner la mort. Il y a un an, plusieurs membres de cette association témoignaient dans un article de l'Obs rue 89 des personnes âgées qui revendiquaient le droit de choisir leur fin de vie et expliquer avoir acheté du pentobarbital sur Internet auprès d'un fournisseur recommandé par l'association.
En Allemagne, le parquet de Koblenz annonce pour sa part avoir démantelé le plus vaste site de vente de drogue, de faux papiers et de fausses monnaies. Le site était hébergé sur le Darknet. Un Australien soupçonné d'être le responsable a été arrêté à la frontière germano-danoise. Et plus de 20 serveurs ont été saisis en Moldavie et en Ukraine.
Et on termine par du sport, Amélie, à l'heure du Covid toujours.
Car l'épidémie court à toute vitesse sur les parquets de la NBA, le championnat de basket aux États-Unis. 4 matchs reportés depuis le début de la saison, dont le Chicago-Boston qui devait avoir lieu la nuit prochaine. Pourtant, le protocole sanitaire est conséquent. Jérôme Val, vous nous avez rejoint en studio. Les organisateurs tentent de rassurer. Ils veulent éviter à tout prix l'interruption de la saison. Une réunion de crise doit avoir lieu dans les heures à venir, Jérôme.
Et il sera question des aménagements à mettre en place d'urgence. Par exemple, limiter les déplacements des joueurs entre leur hôtel et la salle une fois par jour plutôt que deux fois le matin pour l'échauffement et le soir pour le match. Alors la NBA n'a pas voulu prolonger la bulle sanitaire mise en place cet été pour les phases finales. Résultat, l'épidémie, vous l'avez dit, progresse sur les parquets. Sur les 550 joueurs testés depuis la reprise il y a 3 semaines, 63 sont déclarés positifs. Une liste qui ne cesse de grossir, celle des cas contacts, également avec des quarantaines qui amputent les effectifs. Le pivot français de Philadelphie, Vincent Poirier, est resté cloîtré chez lui pendant plusieurs jours. Alors à peine démarré, la saison est déjà chamboulée, mais impensable de stopper la NBA, a martelé son porte-parole dimanche. Nous avions prévu qu'il y aurait des reports et avons planifié le calendrier en conséquence, a-t-il expliqué. Des propos censés rassurer, mais l'annonce du report de 2 nouvelles rencontres montre bien l'incertitude. Au final, nous ne contrôlons rien, a assuré lucide l'entraîneur de Miami.
Merci Jérôme Val. Et les sportifs français ne sont pas épargnés. 15 nouveaux cas de Covid enregistrés dans le club de rugby de La Rochelle. Le centre d'entraînement reste fermé. Et dans le foot, 7 nouveaux cas positifs de Covid au club de Lorient, dont 5 joueurs. De nouveaux tests seront menés d'ici le match contre Dijon, toujours prévu dimanche. Des infos sportives que vous ne pouvez pas lire dans l'équipe. Depuis vendredi, le quotidien sportif ne paraît plus en raison d'un mouvement de grève contre un plan social. Après une réunion entre syndicats et direction cet après-midi, peu concluante selon les organisations des salariés, des personnels appellent à se rassembler devant les locaux de l'équipe à Boulogne-Billancourt demain après-midi.
Amélie Perrier, merci beaucoup. Ne partez pas trop loin. Amélie, on vous retrouve très vite dans Un jour dans le monde.
Moi, je reviens à 18h40 pour Sous les radars.
Allez, à tout de suite. Ce soir, nous allons vers ces crises humanitaires oubliées dont personne ne parle. Elles sont classées par l'ONG CARE chaque année. Ce qui nous emmène au Burundi, au Malawi, au Guatemala notamment ce soir. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne. Je vous le remets dans l'oreille. Le standard est ouvert. Allez-y, nous sommes avec Lucie Pinson ce soir. Elle est la fondatrice de l'ONU Reclaim Finance. Elle sait obliger les financiers, les banques, les assurances à cesser de financer financer le charbon. Et avec elle, nous parlerons aussi du One Planet Summit d'hier, bien sûr, et de l'audience de l'affaire du siècle aussi ce jeudi. On parlera donc d'activisme donc, et d'environnement. Vos questions sont les bienvenues au 01 45 24 7000. En attendant, un œil sur le ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Et Élodie Calac, bonsoir. De la neige sur les massifs de l'Est, Élodie.
Oui, bonsoir à tous. En effet, de la neige des Vosges jusqu'au nord des Alpes ce soir et demain, en bonne quantité sur la Savoie et la Haute-Savoie qui sont placées en vigilance orange. Il neigera demain autour de 800 mètres, mais parfois plus bas dans les vallées intérieures, hein, vers 400 à 500 mètres. Attention, le risque d'avalanche deviendra fort sur le nord des Alpes. On attend aussi des coulées de neige sur les Vosges et le Jura. Ailleurs, le ciel sera souvent encombré. Vous aurez de la pluie sur un grand quart nord-est jusqu'à la Haute-Normandie, à l'Île-de-France, au nord de l'Auvergne. Pour le soleil, direction les Pyrénées. Aussi en Méditerranée au prix du vent fort. Et puis on aura des températures plus douces, juste quelques gelées près des frontières du Nord le matin. Et l'après-midi, Fabienne, souvent 6 à 12 degrés jusqu'à 13 à 15 en Méditerranée.
Les températures restent plus douces, hein.
Oui, effectivement, hein, en Méditerranée, demain on aura jusqu'à 15 degrés à Montpellier et puis ailleurs souvent 6 à 12 degrés.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France. À tout à l'heure, après 19h.